le bistrot des ethnologues. Le mardi 2 février 2010, l'ARCE, l'atelier de rencontres et de recherches comparatives en ethnologie, recevait Jeanne Favre Saada au Baloir. Cet anthropologue et psychanalyste est venu nous présenter son ouvrage « Désorcelé ». Jeanne Favre Saada nous en fait l'exposé dans ce bistrot des ethnologues.
Un merci à tout le monde. C'est vrai que même si Jeanne Favre Saada n'aime pas les honneurs et les hommages, on est quand même obligé de reconnaître qu'on accueille là ce soir une grande figure de l'ethnologie française et votre présence nombreuse en témoigne. Par ailleurs, avant de présenter plus en avant Jeanne Favre Saada, je tiens à remercier la région, la ville, la DRAC pour son soutien, pour leur soutien, pardon. Sans eux, le bistrot des ethnologues aurait du mal à exister et à fonctionner. Mais je remercie aussi la librairie du Grain des Mots. Vous êtes né en Tunisie, jusque-là, on est d'accord. Et après avoir, ma foi, passé une enfance sur laquelle on ne dit pas grand-chose en Tunisie, vous avez été prof de philosophie à l'université d'Alger.
J'y suis arrivée à, je sais pas, 24 ans et j'ai été chargée d'une licence d'un sujet que je ne connaissais pas, qui était la licence de sociologie qui venait d'être créée. Moi, je voulais être ethnologue plus tard, c'est-à-dire après la fin de la guerre d'Algérie. Je ne voulais pas faire du terrain dans un pays en guerre et donc j'avais le temps de la fin de la guerre pour apprendre à l'anthropologie. Voilà.
D'accord. Il se trouve que là-bas, en Algérie, vous menez vos premiers travaux d'observation sur les révoltes paysannes.
Après
l'indépendance, c'est bien hein, cette rectification. Ensuite, vous vous retrouvez à Nanterre, où vous enseignez, bon, je fais un petit peu des raccourcis, où vous enseignez l'anthropologie politique. Et puis, quelque part, assez rapidement, vous vous tournez vers la sorcellerie dans le bocage, qui va donc être un travail de terrain important qui, je vous le rappelle, va donner cet ouvrage qui s'appelle « Les mots, la mort, les sorts », publié en 1977. Et ensuite, de cet ouvrage, « Les mots, la mort, les sorts », vous allez retravailler vos écrits de terrain avec José Contreras, psychanalyste, et vous allez donc écrire un deuxième ouvrage toujours sur la même thématique qu'on appelle « Corps pour corps » en 1981. Aujourd'hui, vous revenez avec « Désorcelé » que vous avez publié il n'y a pas longtemps du tout, l'an dernier. Alors, on est quand même dans une continuité, dans une logique. Toutefois, il y a eu d'autres terrains et d'autres préoccupations sur lesquelles juste je dis quelques mots. Vous vous êtes préoccupé d'interroger les blasphèmes qu'on a portés contre Salman Rushdie.
Non.
Comment ?
Qui l'aurait porté ?
Intéressant. Vous avez aussi récemment...
Blasphème, c'est Dieu qui est en cause, c'est pas...
Et alors, il aurait été content d'être blasphémé,
ah,
justement.
Il aurait été adoré.
Tout à fait, donc
il
voilà,
aurait adoré.
Donc, vous voyez bien. Vous avez aussi fait une recherche sur les...
L'affaire des dessins de Mahomet.
L'affaire des dessins de Mahomet.
J'ai été enquêtée pour ça au Danemark.
Donc, il y a eu un travail de terrain. Et par ailleurs, vous êtes venu il y a quelques années, peut-être vous pouvez me rappeler la date exacte,
2005,
au bistrot des ethnologues.
2005 ou 2006,
sur un thème, lui aussi, qui n'est pas celui de la sorcellerie, qui était donc sur le christianisme et ses juifs, une recherche que vous avez menée autour d'une période qui va de 1800 à 2000. Hein, voilà. Bien, donc je vais vous laisser la parole à l'égard de ce livre Désorcelé. Je voudrais juste interroger, et je pense qu'après votre présentation, et vous-même et le public auraient peut-être des questions particulières à poser par rapport à ça. Sur le thème de la sorcellerie, ça vous appartient totalement. Sur la manière dont vous avez des choses à nous dire sur le bocage actuel, etc. Mais les points que j'aimerais juste évoquer là dans la présentation, très rapidement. Le premier, c'est que vous avez été, en tant qu'anthropologue, très interpellé, entre guillemets interpellé, par le fait que toute une partie, parmi les grands d'ailleurs, de l'anthropologie anglo-saxonne, considérait que la sorcellerie en Europe ne pouvait plus exister. Et que quelque part, je le dis de manière raccourcie, mais c'est intéressant dans les rapports que les anglo-saxons peuvent porter sur l'ethnologie en général et sur les Européens en particulier, comme si cette pratique, la sorcellerie, ne pouvait exister en Europe qu'il y avait 300 ans, mais que depuis certains règlements de châtiment, de sorcières, etc., c'était quelque chose qui avait complètement disparu. Donc là, il y a une première chose qui est importante dans votre continuité, dans votre travail, c'est d'avoir réussi à démontrer que la sorcellerie en Europe, plus particulièrement en France, et plus particulièrement dans le terrain qui a été le vôtre, était quelque chose qui existait. Et que c'était quand même un point de vue tout à fait considéré que l'ethnologue, qui ne peut avoir que, bien évidemment, une pensée bien construite et bien structurée, ne pouvait pas s'amuser à considérer que la sorcellerie pouvait encore exister de nos jours en France. C'est un résumé, mais... La deuxième chose qui, moi, m'a paru importante, mais ça c'est peut-être en tant que... anthropologue, en tant que métier, c'est la manière dont vous remettez ou vous interrogez, remettez en question pourquoi pas, mais en tout cas vous interrogez la pratique de notre métier. Et je dirais, mais je vous laisserai après votre présentation le soin d'en parler plus avant, vous interrogez carrément ce qui semble être pour beaucoup d'entre nous le leitmotiv qu'on ne remet jamais en question, c'est-à-dire cette fameuse observation participante. Or, dans votre ouvrage, vous nous invitez à une interrogation. Est-ce qu'on observe ? Alors à ce moment-là, on ne participe pas. Ou est-ce qu'on participe ? À ce moment-là, on n'observe pas. Et du coup, et je vous promets que je vais m'arrêter rapidement, vous interrogez dans le dernier chapitre du livre la thématique d'être affecté. Et vous interrogez le être affecté, en gros, pour faire un résumé, à deux niveaux. Est-ce que je suis affecté au sens propre du terme, c'est-à-dire est-ce que je suis touché, ce qui est un petit peu la manière dont vous avez véritablement mené ce travail de terrain. Ou est-ce que je suis affectée dans une autre dimension, c'est-à-dire est-ce que je suis assignée à une place en termes d'affectation, ce qui est un petit peu...
Tous les deux, mon général.
Voilà. Jeanne Favré a repris ses droits sur mon résumé. Je vous laisse la parole.
Bon, d'abord, je vous remercie d'avoir accepté de manger en ma compagnie.
Qui ?
Nous. Parce que c'est trop bien de manger pour... on ne va pas se ruiner avec des discours ethnographiques dans les oreilles, par-dessus le marché. Ça ressemble au couvent où on vous lisait la parole divine pour vous dégoûter de la bouffe. Mais dans les couvents, c'était mauvais. Il y avait des raisons de le faire. Là, j'ai mangé avant vous, c'est bon. Oui, bien sûr. Bon. Bon, ceux d'entre vous qui ont lu « Les mots, la mort, les sorts » et « Corps pour corps » se souviennent que j'avais justifié mon abord inhabituel du travail de terrain par la difficulté particulière d'accéder à mon objet d'étude. En effet, on ne vous dit jamais ça quand vous êtes un apprenti ethnologue, mais les différents terrains ne sont pas du tout aussi faciles d'accès les uns que les autres. Et des fois, c'est vraiment coton. Alors, jusqu'ici, j'avais cru que c'était dans les pays qui n'avaient pas été colonisés que c'était le plus difficile. C'est ce que nous disait Marshall Salins, par exemple, qui avait travaillé à Fidji. Mais ça peut être aussi des pays de vieille culture chrétienne, où vous occupez tout d'un coup de travailler d'un phénomène, enfin de quelque chose qui s'appelle la sorcellerie, et dans lequel on vous dit « Ah oui, mais la sorcellerie, d'abord personne n'y croit, d'abord c'est pas chez nous, c'est chez les autres. Ensuite, on peut en parler qu'à ceux qui y croient. Ensuite, à ceux qui n'y sont pas pris, on ne peut rien en dire. Bon. » Et donc, ça devient quasiment impossible d'y travailler. Or, dans les bouquins d'ethnographie, de méthodologie, on vous dit pas du tout si c'est ça, arrêtez, n'y allez pas. On vous dit non, vous êtes parti étudier ça, étudiez-le. Alors la plupart de mes collègues s'arrangent en faisant tout à fait autre chose et en disant qu'ils ont étudié la sorcellerie. Et moi, comme une imbécile pleine d'idéal, je pensais qu'il fallait vraiment l'étudier. Bon. Donc ces deux livres ont illustré chacun à sa manière les obstacles que la sorcellerie bokaine opposait à une enquête ethnographique digne de ce nom, c'est-à-dire un travail qui ne se contente pas de faire un paquet de déclarations des paysans, des déclarations indigènes, sans se fatiguer à les référer ni à des positions de parole particulières, ni à des pratiques qu'on aurait observées. Tout ce que faisaient mes collègues, au mieux, c'était de rapporter des choses qu'on leur avait dites à propos de la sorcellerie, sans dire qui les a dites, pourquoi, ça se rapporte à quelle pratique, et quand, et quoi, et qu'est-ce. Bon, mais mes ouvrages montraient comment j'avais dû progressivement lâcher les prises méthodologiques prescrites par notre discipline, si justement on voulait la pratiquer. J'ai le texte qui s'appelle « Être affecté » dans la conclusion quoi, de Désorceler. C'était ma grande déclaration à l'anthropologie américaine, au Grand Congrès d'anthropologie américaine, et je l'avais intitulée « Sortir de l'anthropologie pour en faire ». Que j'avais été devant un cas où on ne pouvait en faire qu'en piétinant tous les préceptes de méthode et en faisant tout à fait autre chose. Bon, dans Désorceler, je présente les résultats de cette enquête. C'est-à-dire, c'est le fameux volume qui devait suivre Les mots, la mort, les sorts, que bêtement j'avais annoncé pour tout de suite après, et quand j'ai dû l'écrire, je me suis aperçue que j'en étais absolument incapable. Et comme vous voyez, en fait, j'ai fini le travail qui a conduit à Désorceler en 1986. J'ai mis quand même un bon paquet d'années avant d'y arriver. Et là, pour Désorceler, j'ai repris l'ensemble des articles soit que nous avions fait ensemble, José Contreras et moi, soit que j'avais écrit seul, à propos du désorcellement. Bon, là, je présente les résultats de cette enquête, c'est-à-dire je pourrais me présenter monter au grade supérieur au CNRS en disant « voilà, résultat des travaux ». Donc, cette fois, je romps avec la narration et j'adopte un ton délibérément analytique. Maintenant, mes collègues pourraient évaluer ma prétention passée à travailler autrement. Est-ce que ça valait la peine, si on met à plat ces résultats, à cette arrogante antipathique qui nous a fait penser qu'on était des nuls et il n'y avait pas de quoi? Ils peuvent mettre à plat mes résultats et les comparer avec ceux des autres ethnographies de la sorcellerie. Bref, ils peuvent les juger. Donc, on va se demander aujourd'hui ce que j'ai apporté à la connaissance de la sorcellerie sans s'intéresser du tout, contrairement à ce que vous souhaiteriez, à la manière dont j'ai dû m'y prendre pour acquérir ce savoir. Évidemment, en trois quarts d'heure, je ne peux pas vous dérouler tous les immenses résultats de mon travail. Non, enfin, c'est surtout que la moindre analyse prend beaucoup de temps et qu'il y a ça tourne autour de deux analyses qui sont dans les chapitres 4 et 5 de Désorceler. Et pour développer le moindre, il faudrait 2 heures. Bon, Donc, on va partir des ethnographies ordinaires qui se contentent de rapporter des supposées croyances ou des idées paysannes toujours relatives à des accusations d'ensorcellement. C'est-à-dire quelqu'un, on leur dit que dans cette région, on croit qu'on peut être ensorcelé par un méchant, par un sorcier, etc. Ce serait un système d'accusation. Et pour eux, ça s'arrête là, pour une raison simple, c'est que ces chercheurs n'assistent pas à un désorcellement, puisqu'on leur a dit qu'il faut être pris, pour qu'on vous en parle, il faudrait être pris, si on n'y est pas pris, etc. Donc la condition être pris, les ethnologues la refusent par... D'abord parce que la plupart du temps, ils ne s'imaginent même pas qu'ils pourraient accepter ça, que ça pourrait leur arriver à eux. Ma prédécesseuse dans ce domaine m'était sick chaque fois dans son bouquin, chaque fois que les paysans lui faisaient ce genre de proposition. Et elle trouvait ça rigolo, débile. Ça fait partie, c'est dans leur... Ça fait partie du tableau général de la débilité paysanne. Bon, alors, ces chercheurs obtiennent certains récits qu'ils appellent pompeusement des ethnotextes, parce que c'est des indigènes qui ont fait des récits. Ces récits, moi je les ai appelés des exemplaires, j'ai appelé ça des récits exemplaires, parce qu'ils condensent en quelques phrases toute l'idéologie sorcellaire. C'est-à-dire, c'est des espèces de flyers, de publicité pour la sorcellerie. C'est rien d'autre. C'est pas des histoires que personne n'a jamais vécues, c'est un tel qui a dit qu'un tel qui a dit qu'un tel, et c'est les histoires qu'on colporte. C'est la rumeur sur la sorcellerie. Ou sa pub. Bon, mon travail, au contraire, m'a amené à assister à environ 200 séances de désorcellement. Et donc, j'ai pu voir fonctionner le désorcellement, et j'en ai fait le cœur de ce qu'on appelle la sorcellerie, sa raison d'être. C'est-à-dire, je dis, si des gens déclarent, il n'y en aurait-il pas un qui me ferait du mal? Il n'y aurait pas un sorcier qui... C'est parce qu'il veut sortir de ses malheurs répétés, et qui sait que le désorcellement peut l'en sortir. C'est pour être désorcelé qu'on se déclare ensorcelé. Donc, par rapport aux travaux de mes prédécesseurs, j'ai opéré un double déplacement. D'abord, un déplacement depuis les représentations ou les croyances, dont ils s'imaginent que c'est tout ce qu'on a à ramasser, à rassembler, aux pratiques. Et puis, un déplacement de l'accusation d'ensorcellement au processus de désorcellement. Qu'est-ce qui se passe quand on va chez un désorceleur? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui s'opère? Qui opère quoi? Bon, alors maintenant, une fois que j'ai fait ce travail, je pourrais répondre à la question que je me suis posée en arrivant sur le terrain, comme tous les chercheurs qui travaillent sur un phénomène. La sorcellerie, c'est qui? Dans le bocage, quels acteurs sociaux sont engagés dans des pratiques de ce qu'on appelle la sorcellerie? Et ma réponse maintenant, c'est que c'est un certain nombre de désorceleurs professionnels qui sont répartis sur un certain territoire et qui sont assortis chacun de sa clientèle de famille ensorcelée. Pour que vous voyez comme ce travail est difficile, les désorceleurs ne se rencontrent jamais les uns les autres, ils se méfient les uns des autres. Et les familles ensorcelées qui constituent une clientèle ne se connaissent pas les unes les autres. Les différents clients d'un même désorceleur ne se connaissent pas mutuellement. Elles ne connaissent que celui qui les a mis en contact avec ce désorceleur. Et en plus, les familles ensorcelées choisissent leur désorceleur loin de leur domicile, à 50 ou 70 km, pour que tout le monde soit protégé des flux d'informations que provoquerait un espace d'interconnaissance. Un désorceleur, quand il reçoit un client, il ne sait rien de lui, il n'a pas entendu parler de lui. Il va lui faire cracher son histoire progressivement et il va le sortir essayer de le sortir des malheurs répétés dans lesquels ils sont pris. Bon, là, on dirait que je me répète bêtement. Alors, dans le bocage, ce que les ethnologues appellent sorcellerie, eux, ils n'emploient jamais ce mot-là. Hein. Ils peuvent parler éventuellement des sorts, les sorts. Mais en général, ils en parlent à mots couverts en employant des périphrases. Il y en a un qui l'a fait à un tel, par le verbe faire, quoi. Donc, ce que les ethnologues appellent sorcellerie n'a pas d'existence empirique en dehors de ces multiples dyades constituées par une famille d'ensorcelés et son désorceleur. Ces dyades étant disposées dans un espace culturel régional où certaines pratiques rituelles et langagières, le désorcellement, c'est leur mot désorcellement, et ceux qui l'accompagnent, ont cours sous des conditions très strictes que j'ai rassemblées. Bon. De cet espace, aujourd'hui encore, je serais incapable de dessiner une carte parce que l'enquêteur ne peut avoir accès aux désorceleurs qu'un à un. Pour ça, il faut en avoir entendu parler, ce qui déjà prend bien 6 mois. Il faut avoir pu le rencontrer, ce qui veut dire avoir trouvé des intermédiaires et avoir une bonne raison de le rencontrer. Pour moi, ça a été que quelqu'un m'a dit qu'à force de travailler là-dessus, j'étais ensorcelée aussi. Ce qui, à certains égards, était vrai, puisque j'avais des piles d'accidents d'auto dont aucun n'était de ma faute et qui a, voilà, que j'ai gagné beaucoup d'argent avec l'assurance. Et j'avais des troubles à répétition. Bon. J'étais affectée, pour parler comme on disait tout à l'heure. J'étais affectée, mais je ne pensais pas moi-même que j'étais ensorcelée. Bon, de même, l'accès aux ensorcelés est hérissé d'obstacles. Et donc, sur cet espace, j'ai pu repérer, en travaillant avec cette désorceleuse, que j'appelle Madame Flora, que dans telle commune, les paysans malheureux ignoraient totalement le recours au désorcellement, tandis que dans telle autre, tout le monde semblait au courant, bien qu'éventuellement, personne ne veuille m'en parler. Mais on voyait qu'ils étaient au courant parce qu'ils prenaient l'air faux cul dès qu'il en était question. Il existe donc des limites territoriales à la culture du désorcellement, mais j'ai des raisons de penser que ces limites ne sont pas absolument fixes. Dans certains cas, j'ai vu des familles venant d'un canton où il n'était pas question d'essor s'y convertir très rapidement, et dans un cas, s'y convertir en 3 séances et se tirer d'affaire avec l'aide de ma désorceleuse en 7 séances. Bon. Alors, fait important qui répond peut-être à vos questions sur les anthropologues anglais, ces éléments d'une culture locale du bocage coexistent avec les idées et les pratiques d'une culture nationale française qui lui est carrément hostile et qui fait de la sorcellerie paysanne un marqueur essentiel de la barbarie, c'est-à-dire un mélange d'arriération intellectuelle, l'incapacité à manier correctement les relations de causalité, un mélange d'arriération intellectuelle et de cruauté, accuser des innocents et leur en vouloir à mort, et vouloir leur mort. C'est quand même une situation étrange. Ces paysans boquins sont pris, comme tous les Français, dans la culture commune, nationale, qui les a conformés, dont ils sont des agents actifs, comme vous et moi, qui est omniprésente dans leur vie quotidienne. Par exemple, les enfants rapportent un dire de l'institutrice qui condamne la sorcellerie, ou bien le maire est convoqué par le préfet pour mettre fin aux activités d'un des sorceleurs, ou bien la télévision diffuse « Ma sorcière bien-aimée » et du coup on ne parle que de ça, ou bien un journal local publie un article sur un scandale à base d'accusations sorcellaires, etc. Donc on en entend parler couramment, c'est-à-dire la culture nationale produit via l'instituteur, le médecin, le maire, etc., produit quantité de déclarations là-dessus. Donc les paysans savent pertinemment que leurs idées sur les sorts sont en complète contradiction avec la culture nationale, la leur, la nôtre, la culture commune qui les voue au mépris intellectuel et à la condamnation morale, condamnation qui peut aller jusqu'à une condamnation judiciaire. naturellement, cette condamnation des paysans est, pour une part, une hypocrisie. Par exemple, nous, les urbains distingués, qui manions correctement les relations de causalité, nous trouvons absolument admissible, en tout cas, nous ne faisons pas d'histoire, quand certains d'entre nous pensent sérieusement, nous disent qu'ils pensent que le Christ est né d'une vierge. Ou quand ils nous disent qu'ils vont à la messe, en plus qu'il n'a pas connu le péché originel, mais ça, on peut comprendre que ça dépend des définitions du péché originel. C'est pas empirique, quoi. Ou qu'ils consomment le corps du Christ quand ils communient. Et nous, on lit même dans notre grande culture nationale l'éloge d'un tel qui serait un grand savant chrétien. Comment on peut être savant et chrétien si on a le même orgueil de savoir manier correctement les relations de causalité que nous l'avons quand nous condamnons les paysans du bocage. Bon, pour ce qui est de la condamnation morale des boquins, évidemment, c'est pas la peine de... Enfin, je veux dire, nous condamnons, nous, des villes, condamnons le fait de vouloir explicitement la mort d'autrui. C'est ça qu'ils ont de dégueulasse pour les urbains. Mais l'un d'eux qui trouvait ça dégueulasse, c'était tout content quand les Khmers rouges sont entrés à Phnom Penh. C'était pas pour les mêmes raisons. Et chez nous, nous nous bornons à célébrer des entreprises performantes qui, bien sûr sans l'avoir délibérément recherché, produisent le suicide de leurs salariés. Mais on les trouve pas spécialement dégueulasses. Moi, je peux dire que ce sont des criminels contre l'humanité, mais le discours public, la culture nationale ne dit pas ça. Bon. Donc, dans le bocage, pour peu qu'une ferme connaisse des malheurs qui se répètent sans raison et donc, dont on ne sait pas comment se sortir, l'une des issues consiste à recourir au désorcellement. Je ne vais pas vous re-raconter tout ce qu'est une situation de sorcellerie. Et ces bouquins sont, mais les deux premiers bouquins sont ultra connus et ils existent en livre de poche. Allez donc regarder ça. Ce qui est intéressant, c'est que alors que le médecin, le fermier, le médecin, le vétérinaire, le mécanicien, etc., disent devant chacun des malheurs pris séparément qu'il n'y comprend rien, un jour, quelqu'un que j'appelle l'annonciateur, un ami des paysans dans le malheur, finit par avoir la hardiesse de dire « Il n'y en aurait pas un par hasard qui te voudrait du mal ». C'est une question, c'est une hypothèse. Et cette question s'adresse au chef d'exploitation et de famille. C'est lui qu'on dit ensorcelé, même si c'est sa femme qui est malade, ou ses vaches, ou ses tracteurs, ou ses enfants. Ou ses... Bon. Donc c'est en tant que chef d'exploitation et de famille qu'il est ensorcelé. Donc on fait l'hypothèse qu'un sorcier, mais on ne sait pas où ni qui... rattire la force, comme on dit, du fermier malheureux. Le sorcier, c'est forcément un être vivant, un être humain, quelqu'un qui rentre chez vous, qui vous touche, c'est-à-dire qui communique par les canaux ordinaires de la communication, la parole, le regard et le toucher, quelqu'un donc que vous connaissez, et qui est doté d'un pouvoir anormal, grâce auquel il peut pomper votre force normale. Donc l'idée, c'est que la force anormale du sorcier pompe celle de l'ensorcelé par les moyens de la communication et par d'autres moyens sur lesquels on est assez vaseux, d'ailleurs, alors qu'au XIXe siècle, on était très précis.
Le bistrot des ethnologues. Le mardi 2 février 2010, l'ARCE, l'atelier de rencontres et de recherches comparatives en ethnologie, recevait Jeanne Favre Saada au Baloir. Cet anthropologue et psychanalyste est venu nous présenter son ouvrage « Désorcelé ». Jeanne Favre Saada nous en fait l'exposé dans ce bistrot des ethnologues.
La force anormale du sorcier constitue les deux exploitations en exploitation avec les gens, les bêtes, les tracteurs, les végétaux, les etc. Il les transforme en vases communicants. Pendant que l'une se remplit de richesses, de santé et de vie, l'autre se vide jusqu'à la ruine ou la mort. Je vous rappelle que probablement personne ne jette de sort dans le bocage, mais que certains en reçoivent. C'est ça la situation. Alors, dans ce cas-là, la seule solution, c'est de solliciter l'intervention d'un magicien professionnel, possesseur lui aussi d'une force anormale, qui lui permettra de retourner cette force contre le sorcier. Bon, après que nous ayons écrit ensemble corps pour corps, José Contreras et moi, nous avons travaillé sur les matériaux que j'avais rapportés du terrain. Et nous avons... Oui, parce que ce qui est dit, c'est le désorceleur mobilise sa force, pratique un rituel qui fait que en deux temps, trois mouvements, le sorcier devient comme était l'ensorcelé précédemment, c'est-à-dire faible, sur le point de mourir, tandis que l'ensorcelé récupère son potentiel bioéconomique. Ça, c'est ce qui se passe en théorie, dans les ethnotextes que ramassent mes collègues. Donc, quand nous avons travaillé sur les matériaux que j'avais rapportés du terrain, nous avons commencé par confronter ce scénario idéal avec les récits que j'avais moi-même recueillis sur l'ensorcellement, désorcellement. Simplement, je savais à chaque fois dans quelles circonstances on me les avait faits, depuis quelle position de parole que j'avais identifié et noté. En comparant toute cette masse de récits, nous avons vu qu'il y en avait deux sortes qui obéissaient chacune à des règles d'énonciation précises. Nous avons appelé exemplaires les récits de la première sorte et incitatifs les deuxièmes. Par exemple, les récits exemplaires illustrent l'efficacité réelle immédiate du désorcellement. C'est-à-dire au moment où dans la ferme A, le désorceleur pratique son rituel, à la ferme B, qui peut être à 3 km, le sorcier désigné enregistre dans son corps une réaction violente, prélude à des catastrophes en chaîne. Ces récits publicitaire, donc, affirme en gros, l'essor c'est réel, le désorcellement ça y fait. Parce que les ethnographes ont pu recueillir ce genre de récits sans trop de difficultés, moi j'en avais un paquet au bout de 3 mois par exemple, ils ont réduit à cela la supposée croyance dans la sorcellerie. C'est les paysans croiraient vraiment à ça et ne croiraient qu'à ça. Et quand ils accusent quelqu'un d'être, quand ils se plaignent d'être ensorcelés ou quand ils accusent un tel d'être leur sorcier, ils y croient dur comme fer. On reviendra là-dessus dans la discussion, mais c'est précisément, on n'y croit jamais dur comme fer, sauf dans de très brefs moments. Et c'est ça qui fait que ça peut marcher. Et toutes les thérapies fonctionnent comme ça. Est-ce qu'on va croire très dur comme fer à toutes les biveusées auxquelles croit son psychanalyste? Bien sûr que non. Mais à de brefs moments, on y croit et ça suffit. Bon, donc, quand les sciences sociales parlent de discours magique ou de la pensée magique, et Dieu sait qu'il y en a des kilos, ou même quand les textes de Tsvetan Todorov, linguiste, on parle rhétoricien d'ailleurs, parle du discours magique, il vit ses récits exemplaires et eux seuls. pour la raison simple que les autres, ils les ont jamais entendus. Ceux que j'ai recueillis, les autres que j'appelle incitatifs, je les ai entendus pour la plupart au cours de séances de désorcellement, soit parce qu'un ensorcelé raconte sa vie et ses tentatives précédentes éventuellement de désorcellement au désorceleur qui a besoin de tout savoir et à qui il faut raconter beaucoup de choses pour l'inciter à se mobiliser, soit parce que au cours d'un désorcellement, le désorceleur raconte plein d'histoires, à chaque séance, il raconte plein d'histoires comme ça, pour inciter ses patients à faire tout ce qu'il faut, enfin ses ensorcelés, à faire tout ce qu'il faut pour s'en sortir. Donc il y a deux genres d'énonciateurs. Il y a 20 minutes ou encore 20 minutes ?
Ça va ?
Oui. Bon, ces récits sont absents de la littérature ethnographique, donc je passe. Mais ce que ça permet de penser, c'est que d'abord le désorcellement, ça ne dure pas 3 minutes, comme le racontent ces récits exemplaires, ça dure plusieurs mois. Ensuite, ça engage de la part du désorceleur plus qu'un rituel spectaculaire qui est raconté dans les récits exemplaires. Et parfois même, il n'y a pas du tout de rituel. Mais le désorceleur dit, quand vous serez parti, je ferai ce que j'ai à faire. Je le fais la nuit, quand je suis tout seul. Hein? Mais ce qui est le plus important, c'est qu'il engage les ensorcelés à prendre une participation active à sortir de la crise. Et donc, il négocie avec eux un changement d'attitude sur un temps long. Assez long. Donc, quand on a vu José Contreras et moi qui avait ces deux types de récits, on a fait une hypothèse d'ensemble selon laquelle le désorcellement constitue une thérapie. On ne dit pas une psychothérapie, bien qu'elle était psy et moi aussi, mais ce n'est pas une raison pour salir tout le monde. Le désorcellement constitue une thérapie, c'est à ça que je vais venir en conclusion et dont je voudrais qu'on discute. Des thérapies du collectif des habitants d'une ferme prise de malheurs répétés et incompréhensibles. Le rituel occupe une place finalement modeste dans cette affaire, qu'il ait lieu ou qu'il n'ait pas lieu. Le magicien fait lui-même et il fait faire à ses clients quantité d'autres choses pour réduire la crise. Et c'est ça, le désorcellement. Bon, alors je passe sur le fait que j'ai comparé, puisque je savais maintenant ce que c'était que les récits exemplaires, que les folkloristes et les ethnologues n'avaient rapporté que des récits exemplaires. C'est un des chapitres du livre, j'ai comparé comment ils étaient au XIXe siècle et comment ils étaient au XXe. Et j'ai fait l'hypothèse du changement de la sorcellerie pendant ce siècle-là. Bon, dans mon enquête, comment procède cette thérapie ? Pendant mon enquête, j'ai connu plusieurs désorceleurs, mais je n'ai pu longuement assister qu'au travail d'un seul d'entre eux, une femme en l'occurrence, Madame Flora, pour une raison simple, une fois qu'on s'est lié avec un désorceleur, et qu'il est en plus votre désorceleur, naturellement j'en ai connu d'autres, mais à chaque fois il voulait que je rompe avec elle, et il commençait à se préparer à lui faire la guerre. Donc il y a sûrement, il doit pouvoir exister des ethnologues assez pervers pour aller cafeter comme ça de désorceleur en désorceleur. Moi, j'étais trop naïve, j'étais pas capable. Donc avec les autres, ça s'est arrêté là quand ils m'ont dit mais il faut choisir. Bon, cette Madame Flora, elle le faisait avec elle, c'est-à-dire elle pratiquait la partie divinatoire du désorcellement, savoir si vous êtes ensorcelé et qui vous le fait, avec des jeux de cartes et de tarot. Parce qu'elle était impotente, elle ne pouvait pas aller la nuit dans les fermes comme ses collègues désorceleurs. Et donc les gens venaient la visiter dans la salle à manger de sa maison de village. Et c'est à partir de là qu'elle travaillait. Bon, le chapitre 4 de Désorceler qui montre en détail comment ce changement est amené grâce à une technique de cartomancie qu'elle a inventée à cet effet. Après ça, je me suis posé des questions d'ordre plus sociologique. Pourquoi les familles ensorcelées se recrutent-elles exclusivement dans deux catégories, les fermiers et les artisans commerçants qui travaillent dans une entreprise familiale? C'est clair que dans la sorcellerie telle que je l'ai rencontrée, pas au XIXe siècle, le lien entre l'entreprise familiale et la sorcellerie, c'est-à-dire le fait qu'une famille travaille en bloc, soit soudée en bloc, dans un bloc dont un seul est le chef, joue clairement un rôle important. Pourquoi est-ce que les fermiers ensorcelés expliquent leur état par la phrase énigmatique « c'est depuis que j'ai repris à mon compte », depuis qu'ils ont succédé à leur père? Quel rapport entre... Donc il y a un chapitre, le chapitre 5 là-dessus, qui s'appelle les... Je ne sais pas quoi, de l'ordre symbolique, quand l'ordre symbolique dérape,
Les
ratés de l'ordre symbolique, oui, parce que, en fait, toute la, non seulement la culture nationale, mais l'ethnologie rurale nous explique qu'il y a rien, et les romans, etc., nous expliquent qu'il n'y a rien de plus divin que de succéder à son père, que comme ça les générations se l'un, que le savoir de l'un va passer dans les autres, et que c'est ça qui assied symboliquement une société, et voilà qui vous assied symboliquement une société. J'ai étudié de près ce passage de. La succession d'une exploitation, et j'y ai trouvé une espèce de nid de vipère à la Mauriac, où pour succéder à son père, il faut l'aider à sortir, éliminer ses frères, se marier pour pouvoir exploiter sa femme, faire des enfants qui travailleront sans salaire, enfin à l'époque. Et donc, il s'agit de bouffer tout un groupe familial qu'on va constituer, enfin... bouffer son groupe d'origine et se constituer un groupe qu'on va bouffer, évidemment tout le monde ne supporte pas ça. Tout le monde dit que c'est bien de reprendre à son compte et que qu'est-ce que c'est bien là, d'être seul sur mes terres et j'ai pas de patron, etc. Sauf qu'ils sont ils ont ça à faire, bouffer tout le temps les autres, et certains ça leur réussit pas si bien. C'est ceux-là qu'on retrouvera ensorcelés 15 ans après et qui vous diront « depuis que j'ai repris à mon compte, ça va de travers ». Ça les rend plutôt sympathiques. Heureusement que ça ne va pas toujours bien de faire ces choses-là. Bon. Donc je montre dans ce livre comment, pour s'en sortir, il faut que ce couple... ce couple de paysans qui a l'air tellement soudé, qui se présente toujours en bloc, néanmoins doit se dessouder pendant un petit moment, et où il faut que ce soit les femmes qui mettent la main à la pâte pour tirer leur mari d'affaires, parce que sans ça ils n'y arriveraient pas tout seuls. Et après, une fois qu'elles ont déployer l'énergie qu'il fallait pour leur faire avaler ce qu'ils ne voulaient pas avaler, leur faire prendre les médicaments rituels qu'ils ne veulent pas prendre par orgueil, ou par, etc. Après, tout d'un coup, ils ne parlent plus de la situation qu'en disant « on, nous, on en a mis un coup, qu'est-ce qu'on s'en est bien sorti, il n'y a plus de jeu ». Pendant quelques mois, elles deviennent le chef, sans que ce soit dit, c'est-à-dire c'est toujours lui le chef d'exploitation. Et il y a des séances différentes quand elles sont ensemble, quand le couple est ensemble et quand les femmes sont seules. Il ne se passe pas du tout la même chose. Bon. Non, alors, je veux juste dire simplement en terminant, une minute.
Que
carrément, non. Ce qui se passe là, c'est pas une psychothérapie. C'est une thérapie, mais pas une psychothérapie. C'est-à-dire que nous croyons, nous, spontanément, au bien fondé scientifique de la psychologie, c'est-à-dire de cette discipline qui procède en isolant dans l'être humain un champ du psychisme. C'est ce que nous enseigne la culture nationale, et beaucoup d'entre nous l'ont appris en classe de philo, et on y croit. Au XIXe siècle, pourtant, quand la psychologie s'est constituée, c'était une hypothèse le psychisme conçu comme un isolat, c'était une simple hypothèse. C'était l'idée qu'il y aurait là un champ qu'on connaît mal. De ce champ, on a fait un isolat, parce que c'est comme ça que la discipline se constitue. On a isolé un certain registre de l'humain en faisant l'hypothèse qu'il aurait une logique propre, et puis on s'est mis à penser ce registre contre les autres. C'est-à-dire qu'on en a fait un principe ontologique. Il y a un psychisme individuel dans le tréfonds de chacun, que nous ne connaissons que par les actes manqués, le langage, etc. Le psychisme, nous fait-on croire, c'est ce qui reste d'un humain, d'un être humain, quand on en a retranché ce qui relève du corporel, de l'interaction, de la relation avec autrui, de son insertion dans la société, dans une culture et dans une histoire. L'idée d'une psychothérapie implique qu'on pourrait soigner le psychisme sans toucher à rien d'autre. Évidemment, depuis 30 ans, certaines thérapies se sont aperçues qu'il fallait quand même revenir là-dessus, mais la psychanalyse, qui se considère comme la reine des psychothérapies, ignore d'emblée tout ce qui, chez le patient, n'est pas le psychisme inconscient, c'est-à-dire ce qui relève du corps, voire sa préférence pour la position allongée, ce qui relève de l'action, voire le fait qu'on ne doit parler que tout doit se passer par le langage, l'accès à l'inconscience doit être exclusivement par le langage et la représentation, alors que l'inconscient... J'ai été thérapeute pendant 21 ans, je peux vous dire, ça a une odeur, ça a des modalités dans la voix, il y a c'est présent de mille et une façons qui ne sont pas du langage. Voir aussi la crainte du passage à l'acte en séance, comme dans la vie, chez les psychanalystes. L'acte, c'est vraiment le péché. Et aussi, on élimine ce qui relève de l'économique, du social et de l'historique comme terreau des relations humaines. C'est-à-dire, le patient est prié de porter son attention sur ses attachements successifs, comme si la forme de l'institution familiale, parce que quand même, il n'est pas venu tout seul. Il a été pendu par quelqu'un, etc. Comme si la forme de l'institution familiale flottait, intouchée, toujours la même, au-dessus des cultures, des sociétés, de l'histoire. Alors, envisagées depuis la sorcellerie Bokken, ces conceptions du psychisme et de la psychothérapie sont absolument incrédibles. C'est-à-dire, si les Bokken étaient majoritaires dans un autre continent et qu'ils avaient une institution de recherche en voyant des enquêteurs travailler sur les villes françaises, ils diraient ça, j'ai trouvé une construction culturelle particulière, spécialement bizarre, faite d'une façon qu'on ne peut pas comprendre. Bref, c'est du symbolique. Il y a de quoi travailler. C'est-à-dire, dans la sorcellerie Bokken, le psychisme, au sens où l'entend la psychologie scientifique, n'est pas concerné, ni même l'individu considéré comme un sujet isolable. Ce qui est en cause, ce sont des paquets de relations sociales considérés toujours dans leur historicité. Bien sûr, il y a de l'inconscient dans la sorcellerie comme dans le reste. Bien sûr, il y a de l'affect. Bien sûr, il y a même du langage, bien qu'il parle vraiment peu et tordu, enfin en faisant des zigzags autant qu'ils peuvent. C'est les deux premiers chapitres de Désorceler, qui développent leur pratique du langage. Bien sûr, il y a des individus, mais ce qui va mal, ce que soigne le désorcellement, ce sont certaines relations. Et il le soigne par le truchement d'actions, en commettant pour le désorceleur et en faisant commettre aux ensorcelés. Voilà, alors là, je me dis que depuis quelques mois, je me dis, bon, bah, si on considère la sorcellerie Bokken sous l'angle des relations et des interactions, on peut alors maintenant, je pourrais maintenant comparer mon travail sur la sorcellerie avec d'autres qu'on connaît en ethnographie sous le nom de, des rituels d'affliction ou le chamanisme, c'est-à-dire des, c'est les ethnologues qui appellent ça les rituels d'affliction, hein, pas les indigènes, c'est-à-dire des situations dans lesquelles on fait des rituels pour se sortir du malheur. Et d'autre part, avec le chant, qui jusqu'ici n'a pas été susceptible d'une ethnographie, le chant des thérapies modernes. Et c'est, si on les considérait, si on ne les prenait pas au sérieux plus que ça quand elles prétendent s'en sortir avec le psychisme seul, le langage seul, etc., alors elles pourraient entrer dans, le, dans ce champ de ce que j'appelle des institutions de rattrapage, qui permettent de récupérer pour un citoyen ou un sujet ou un ensemble de sujets qui n'ont pas réussi tous les passages qu'il faudrait faire, tous les rites de passage de l'existence. On peut lui proposer un dispositif lui permettant de refaire le trajet. Voilà, c'est à ça que je travaille, mais l'ennui pour les thérapies modernes, c'est que chaque fois que des ethnologues, j'en vois tous les 2 ans à peu près, qui disent « je vais faire l'ethnologie de la psychanalyse », et paf, à chaque coup, ils deviennent psychanalystes.
Ils sont pris.
Voilà.
Ils sont pris.
Voilà. Ils n'arrivent pas à développer, à déployer un langage indépendant de celui que, de la théorie psychanalytique.
C'était le bistrot des ethnologues. Cette émission vous a été proposée par l'ARCE et mise en onde par Divergence FM. Prise de son, montage, Pascal Roulier pour Divergence FM.